Chers amis Hachem, Alechem Tihyou, les Orechem, Yutovim et Shanim, les Emin. Nous poursuivons notre étude du Sefer Shemot. Donc nous sommes au début de la paracha. Et là il est dit, Vayamot Yosef vechol Echav vechol Adorahu. Donc Yosef est décédé, lui et toute sa génération et tous ses frères. L'oppression n'a commencé qu'à la mort de Lévi, qui est le dernier à décéder. Et à ce propos, il est dit que quand bien même Yosef et les membres de la première génération ont quitté ce monde, malgré tout, Akadosh Baruch Hu veille sur Israël. Il dit, Vayamot Yosef, le Zohar dit, Vayamot Yosef. Yosef est mort, certes, et toute la génération, mais Dieu n'est pas mort. Elohim l'omet. Un terme assez étonnant, une expression assez étonnante. Et les Mfarchim dire que la promesse faite à Yaakov n'est pas vaine. Elle se réalise. Quelle est cette promesse-là? La promesse qu'il est dit immédiatement après. Obné Israël, paru, vaishretsu, vayirbu, vayatsmu, bimod, meod, batimale, aretotam. Et les enfants d'Israël, se sont multipliés, ont grouillé, ils sont nombreux, puissants, extrêmement, méod, bimod, méod. Et la terre s'est remplie d'eux. Ils remplissaient le territoire. Donc il y a une bracha, il est mentionné ici cinq termes, et le Zohar d'en faire six. Vayatsmu, parce qu'il est dit paru. C'est un. Vishretsu, le deuxième. Vayirbu, trois. Vayatsmo, quatre. Bimod, c'est Bimod, Mod, cinq. Vatimale, Aresotam, six. Donc il y a six termes. C'est comme si qu'il y a six termes. Mais en fait, le Zohar commente ici qu'il y a six dimensions dans l'amplification de la puissance d'Israël et la fécondité. C'est pour ça que certains disent, comme les Midrashim qui disent, que comment ça se manifeste? Ça s'est manifesté par le fait qu'une femme a couché six enfants à la fois. Donc c'est ça l'idée qui est mentionnée. Donc et ça c'est la promesse que Akadosh Baruch Hu a fait à Yaakov avant qu'il descende en Égypte, que c'est là-bas, en Égypte, il sera un grand peuple puissant et il se développera plus que rationnel, plus que de raison. Donc ça se réalise. Donc il y a ici quelque chose, une conduite qui est hors norme. Après, il est dit, Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim, Asher lo yada et Yosef. Donc, un nouveau roi s'est levé sur l'Égypte qui ne connaissait pas Yosef. Alors, à ce propos, il est dit, alors, on peut commenter le roi Pharaon, est-ce que c'est le même Pharaon ou un nouveau? Donc, il y a une discussion, Rashi ramène deux avis, Rav ou Shmuel, il y en a un qui dit que c'est un nouveau, vraiment, qui ne connaissait pas Yosef. Il y en a un autre qui dit, et Shmuel dit, non, c'est le même, seulement, il a fait comme si qu'il ne connaissait pas Yosef, et il a innové des décrets nouveaux. Donc il a changé de politique. Et à ce propos, il est dit que, le Midrash dit ce sont les Égyptiens qui sont venus demander à Pharaon qu'il fasse des décrets à l'encontre d'Israël pour les oppresser, pour empêcher qu'ils se multiplient plus que autant. Et lui a refusé. Il dit comment peut-on faire une chose pareille? Voilà que nous devons notre existence, notre puissance, notre réussite économique et militaire et la prospérité des Juifs, on la doit à Yosef. Alors ils l'ont destitué 3 mois, et après c'est lui qui est venu et qui leur a dit « Vayomer el amo, ine am ben Israël rav et atsumimenu » Voilà que le peuple d'Israël est plus nombreux et plus puissant que nous. Habanit Hakemalo. Venez, on va faire un projet, comment les diminuer. Penirbe, etc. Donc c'est lui qui est venu après avec des nouvelles xérotes. Alors comment a-t-il fait? Et la première chose qu'il a fait, c'est d'interdire aux Égyptiens de pratiquer la Milah. De telle sorte que Yosef, les Égyptiens pratiquaient depuis les premières années de famine, Yosef leur avait partagé, avait distribué des récoltes et de quoi se nourrir à la condition qu'ils pratiquent la Milah. Ils avaient demandé à Pharaon d'intervenir et Pharaon leur a dit, faites tout ce que vous dit Yosef, vous devez l'accomplir. Donc là, il annule l'héritage de Yosef. Il fait oublier aux Égyptiens toute l'idée de la prospérité qui est traduite par la Brit Mila. Puisqu'eux-mêmes pratiquent cette habitude de circoncire, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose ici. Et qui a... Donc on se rappelle de Yosef, et ça, il a voulu l'effacer. Une autre explication est donnée. « Vayakom melech hadash al Mitzrayim ». Alors il est marqué « Kima haitalo ». Donc c'est Pharaon, il s'est élevé. Alors il s'agit du Pharaon sur terre, certes, mais il s'agit aussi de l'archange de l'Égypte. Mitzrayim, le roi, Chachamim nous disent que chaque peuple a un archange qui le guide, qui le dirige, qui intervient en sa faveur, qui lui procure la prospérité et la réussite. Et ici, il s'agit de l'archange de l'Égypte. Tout soudainement, au moment où l'exil va commencer, l'oppression va commencer, ce roi, cet archange, s'élève, prend de l'ampleur, prend une puissance. Il a une puissance qu'il n'avait pas jusqu'à présent. Et cela nous dit le Zohar, de telle sorte que le Ham Israël, de par le fait de son importance et de l'éminence de la noblesse de ses racines, ne peut tomber entre les mains et être asservi que par quelqu'un qui est important. Donc c'est pour ça que l'archange prend le pouvoir et devient et se développe, devient puissant plus que toutes les autres nations. Et là, il convient aussi de dire que c'est à ce moment-là que le roi d'Égypte prend encore une puissance Kima Aitalo. Donc il prend une puissance qu'il ne possédait pas jusqu'à présent. Alors qu'est-ce qu'il se passe ici? Il se passe ici Quelle est la notion? Qu'est-ce que le texte veut nous indiquer? Il veut nous indiquer que le pouvoir de l'Égypte domine Israël. Donc, quel est le pouvoir d'Égypte? Alors, nous avons déjà vu qu'il y a deux conceptions, deux manières, deux idées, deux conduites du monde. Il y a la conduite naturelle qui apparaît au début de la création par la tribu Elohim. Bereshit, bara Elohim. Et ce terme, cet attribut, ce nom-là va apparaître 32 fois dans la création. Et cet attribut signifie que les règles de la nature sont telles que on ne peut pas les changer. Elles sont immuables. Et la réalité physique, matérielle de ce monde dépend de ce nom-là. Et c'est ce terme-là, ce nom-là, que les Égyptiens maîtrisent. Ils en maîtrisent une certaine partie. Nous avons vu que le nom Elohim, il a cinq lettres qui forment 120. On peut dériver ce nom en 120 compositions, et ils en maîtrisent une certaine partie. Et donc ils savent, c'est grâce à cela qu'ils arrivent à faire toutes sortes de manipulations, de sorcellerie, les astrologues voient l'avenir dans les cieux, etc. Donc ils ont un certain pouvoir parce qu'ils en maîtrisent il maîtrise certaines compositions de ce nom. Il le détache du Shem Havaya qui est le donneur d'ordre. Donc c'est à partir du moment, voya comme Melech Hadash al Mitzrayim, ce nouveau roi, ou bien ce roi qui innove, Hadash nouveau, qui innove une nouvelle politique, une nouvelle conduite vis-à-vis d'Israël, signifie que cette matérialité, que le concept de matérialité totale, la rationalité, tout ce qui dépend des règles de la nature prend le pouvoir. Et Israël, sa particularité, c'est d'être attaché continuellement au Shem Havaya Baruch Hu. Donc il n'y a pas de nature. Les lois de la nature ne s'appliquent pas à Israël, comme on le verra à la sortie d'Égypte. Ce concept-là est en sommet. Donc c'est le pouvoir de la nature qui prend le dessus. Et malgré tout, qu'est-il dit ? Alors il dit, allons combattre Israël avec intelligence. On va faire un projet pour les affaiblir, pour les diminuer de peur, de peur qu'ils se multiplient encore. Et s'il arrive qu'il y a une guerre, des ennemis qui viennent, alors ils vont s'associer à nos ennemis, ils vont nous chasser du pays. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y a 6 mois à la Sarémissim, donc ils l'ont imposé toutes sortes de travaux. Les Ma'ananotobes, si vous voulez, afin de l'oppresser par ce labeur. Et juste après, donc ils l'ont imposé, ils ont fait en sorte de les occuper, de leur donner des travaux extrêmement pénibles, durs et de telle sorte qu'ils ne puissent pas se reproduire. Et qu'est-ce qu'il est dit ? Et malgré tout, ils ont continué à se multiplier. Alors les Égyptiens, ils étaient étonnés. Donc il y a ici, quand bien même la conduite du monde et la domination d'Israël se fait d'un point de vue rationnel, naturel, c'est les lois de la nature qui s'appliquent sur eux et qui s'appliquent avec force et douleur. Malgré tout, Kadosh Baruch Hu fait en sorte, agit avec eux de manière surnaturelle. Donc c'est de manière irrationnelle que les blés d'Israël continuent à se développer, à se multiplier. Ce qui indique que dans toutes les situations, Il y a la promesse faite à Yaakov de surveiller, la surveillance particulière qui a la Hashgacha pratique, Kadosh Baruch Hu pratique et accorde, attribue à Israël, elle ne cesse jamais de se réaliser. Ce lien-là, et quand bien même Israël s'abandonne à toutes sortes de faiblesses, délaisse les mitzvot, oublie, c'est la tradition, oublie sa émouna. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu, de par le fait qu'il l'a promis à Yaakov Avinu, il pratique cette conduite, la destinée d'Israël, donc, est particulière dans toutes les situations, dans la pire des situations, dans les ténèbres et dans les abîmes les plus noirs, Akadosh Baruch Hu n'abandonne pas l'âme Israël et continue à le conduire de manière surnaturelle, irrationnelle. Parce que c'est ce qui est indiqué ici. Alors il est dit, voyez, Avidou ben Mitzrayim et ben Israël befarech. Les Égyptiens ont asservi les ben Israël befarech. Befarech, ça signifie avec très difficile, une oppression totale, complète. Et ils n'avaient pas le loisir de pouvoir réfléchir, d'espérer. On les a totalement étouffés jusqu'à que les Bnei Israël eux-mêmes se considèrent comme n'ayant d'autre statut que celui d'esclave. Donc on les a, c'est un lavage de, non seulement physiquement ils sont esclaves, mais aussi intellectuellement. Donc ils ont assimilé le fait que l'esclavage est leur lot. Alors, il y a marqué, voyez, Marou et Haïm Ba'avodakasha, ils ont ils ont conduit leur vie amère par des labeurs difficiles, mais Homer, le mortier, les briques, et tous les travaux des champs, et tout l'arbre, cher Abdou Bamim Bacher, ce farech-là, il est terrible. Et alors, le Midrash dit que, par exemple, ils ont donné les travaux durs, ils donnaient aux faibles, les travaux des femmes, ils donnaient aux hommes, les travaux des hommes, ils donnaient aux femmes. Quelque chose de terrible. De sorte que les individus ne trouvent même pas des travaux. Et en plus, parfois, ils étaient des travaux inutiles, juste pour qu'ils soient occupés à travailler durement, il n'y avait pas de besoin que le travail produit ne servait à rien. Donc on voulait les vider de tout espoir. Et cela, comment ça débute? C'est ça l'idée. L'idée, c'est l'asservissement total. L'asservissement total, c'est-à-dire qu'on est sous la coupe de la matérialité. Donc c'est non seulement on travaille pour travailler. Comme si quelqu'un qui il travaille pour gagner et il gagne encore et encore, mais c'est inutile. Il n'a pas de besoin. Pourquoi? Pour ne pas avoir le loisir de se poser pour réfléchir à son existence. Réfléchir à autre chose que le système dans lequel il évolue. Mais ça, c'est causé comment? Comment il est dit, voyez comme le Chadash al Mitzrayim, Asher lo yada et Yosef. Comment Pharaon a eu l'idée de cela? Comment Pharaon a pu dominer Israël à ce point-là? C'est parce qu'en fait, eux-mêmes se sont détachés de leur propre système. Eux-mêmes ont voulu, le Midrash dit, Natan belibam lisno amo litnakel ba'avadav. Kadosh Baruch Hu a mis dans l'esprit des Égyptiens de se venger de ses enfants. Pourquoi? Parce que les Israélites eux-mêmes ont commencé. Eux-mêmes se sont mis sous la coupe de l'Égypte. C'est-à-dire que ils n'ont pas pensé, c'est eux-mêmes qui ont conféré à l'Égypte le pouvoir sur leur propre destinée. Et c'est alors, parce que sans cela, jamais les Égyptiens n'auraient pu commencer à les asservir de quelque manière que ce soit. Donc c'est si l'Am Israël il se détache de sa destinée, se détache de la source de sa destinée, de la conduite particulière qui est la sienne, alors il est sous l'emprise des nations. Et là, la conduite particulière est en sommeil. Et c'est l'autre système qui prend le dessus. Donc en réalité, c'est ce qu'il est dit. Il dit « Hefero berit mila ». Le Midrash dit, ils ont abandonné ou renversé ou changé le concept de la Brit Mila en voulant ressembler aux Égyptiens. Et là, tout d'un coup, les Égyptiens eux-mêmes abandonnent la Mila. Et en abandonnant la Mila, la circoncision, les Égyptiens oublient ce que Yosef a procuré. Tout ce que Yosef a fait était d'une dimension miraculeuse. Ça, tout ça, ils oublient, et ils prennent un autre pouvoir. Voyez, comme Kima Hadasha Eulo. Donc, une nouvelle politique, une nouvelle nation s'est levée, avec une nouvelle idéologie. Celle d'oppresser Israël, parce que Israël dérange, parce qu'il n'est pas dans le concept normal de la rationalité de leur civilisation. Mais ça, c'est causé par Israël lui-même. Si les Bnei Israël n'avaient pas voulu trouver grâce aux yeux des Égyptiens en adoptant leurs us et coutumes, en se considérant comme étant des gens dignes de confiance des Égyptiens, trouver grâce à leurs yeux, jamais ça aurait commencé. Parce qu'en fait, Pharaon n'avait aucun intérêt à les asservir. Voilà qu'au début, il dit à Yosef, si tu as des frères, on va les qui sont capables, qui ont des capacités, des connaissances, et alors on va les placer, on va en tirer profit, de la même manière que Yosef a sauvé l'Égypte, les frères aussi, donc ils apportent une richesse économique. Donc c'est tout l'intérêt de Pharaon de leur permettre de leur permettre de se développer, parce que l'Égypte profite de la richesse qu'ils apportent. Alors qu'est-ce qui lui prend soudain de se débarrasser des gens qui lui apportent la richesse? Alors c'est irrationnel, c'est véritablement inutile pour lui. Au contraire, il va amener son règne, sa dynastie et son pays à sa perte. Il dit ça, c'est parce que les Bnei Israël eux-mêmes ont considéré que leur prospérité était due à l'Égypte, alors qu'ils auraient dû considérer que c'est eux qui apportent la prospérité à l'Égypte. Et c'est ça ce que les Mfarshim disent, qu'il y a deux conduites dans le monde. Il y a une conduite naturelle et une conduite surnaturelle. Il y a ce qu'on appelle Ashgacha Klalit et Ashgacha Pratit. L'Ashgacha Pratit, c'est que la conduite, la destinée d'Israël est miraculeuse. Donc c'est Israël, là où il se trouve, il amène la richesse, parce qu'Akadosh Baruch Hu la lui confère. Donc c'est cette dimension-là qui apporte la richesse à l'Égypte. Et les Bnei Israël n'ont aucun intérêt, n'ont aucune volonté. C'est un fantasme que Pharaon imagine. Quand il dit à son peuple, voyons Melar Misraim. De peur qu'il se multiplie plus que de mesure, et qu'il y a une guerre, il va nous chasser de la terre, il va prendre le pouvoir. Quelle idée saugrenue, comment a-t-il pu penser une chose pareille? Donc c'est irrationnel. Et on voit que ça a été causé par justement une attitude d'un Israël qui a voulu trouver grâce à ses yeux. Ça, c'est la première dimension. Donc, le premier point. Dans la suite, alors, les Bnei Israël vont malgré tout se multiplier, mais la procédure qui va de la destinée particulière, comme nous l'avons dit, ne va pas cesser. Preuve en est, c'est que plus tard, il est dit, voyez les riches, donc il y a la xéra de jeter les enfants au Nil. Donc les sorciers avaient dit à Pharaon, nous avons vu dans les as que il y a un sauveur qui va naître. Donc il faut s'en débarrasser. On ne sait pas qui il est, où il est. Donc ils ont décidé de jeter tous les nouveau-nés, les garçons au Nil. Alors les Israélites ont arrêté. Donc quand il y a une telle xéra, on s'abstient d'amener des enfants au monde, comme dans le cas où il y a une famine, etc. Alors il dit, si vous allez Ishmi Bet Levi, donc il y a marqué que un homme, ici c'est Amram, il a repris sa femme sur le conseil de sa fille. Alors la fille lui a dit, voyez Ishmi Bet Levi, vaikah et Bet Levi. C'est-à-dire quoi, vaikah? Il s'est remarié avec elle, parce qu'il s'est séparé d'elle, à cause de la Gezera. Alors, mais la fille lui a dit, ton décret, ce que tu fais toi, est plus dur que ce que fait Pharaon. Parce que Pharaon, il a décrété sur les garçons, et toi, tu décrètes aussi sur les filles. Donc, tu empêches aussi les filles de venir au monde. Alors, il écoute le conseil de sa fille, et il va prendre une femme. La femme va... Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de conseil de sa fille? C'est illogique, c'est irrationnel. Et alors, lui, il écoute sa fille. Alors, mais en vérité, il va avoir un garçon. Alors, le garçon, il va être gardé, il est né au septième mois, donc elle va le garder environ 3 mois, et après, elle va le mettre sur le Nil. Elle voit qu'elle ne peut plus le garder plus longtemps, elle le met sur le Nil. Elle fait un berceau, elle le met sur un Nil. Qu'est-ce que c'est cette histoire de jeter son enfant au Nil? Donc c'est quelque chose d'irrationnel. Donc on voit qu'il y a une conduite ici. Les individus se comportent de telle sorte que Akadosh Baruch Hu les guide. Il y a quelque chose d'une dimension irrationnelle. L'irrationnel ici, il est le vecteur de la conduite, il indique la conduite divine qui fait que quand les hommes agissent, ils agissent au-delà de ce qu'ils peuvent comprendre. Et c'est cette action-là qui va amener, permettre à Moshe d'être recueilli par la fille de Pharaon et de grandir dans le palais du roi. Donc on voit bien que les deux conduites ne se coupent pas. Elles continuent en parallèle de fonctionner. Et l'idée est à quel moment l'une va prendre le dessus sur l'autre. Et c'est ça la délivrance. La délivrance, c'est lorsque cette conduite miraculeuse va se jaillir et dévoiler et prendre le dessus sur l'autre conduite, c'est la conduite naturelle. Et c'est pour ça que toutes les makotes en Égypte seront formulées par le Shem Havaya Baruch Hu. C'est le nom d'ailleurs que Moshe va dévoiler à Pharaon qui ne le connaît pas. Il connaît Elohim, mais il ne connaît pas Shem Havaya. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.